tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Les âmes offensées.
Du 18 janvier au 29 mars.
Une rencontre entre l'ethnologie et le théâtre.
Un projet sur les ondes de la grenouille.
Sur le web
et au théâtre de la criée.
Plus d'infos, www.lesamesoffensées.fr.
Les mots de Masha Makaïev.
Les mots de Masha Makaïev.
Le costume.
Le costume.
Rêverie.
Rêverie.
Marseille.
Marseille.
Les objets.
Mélancolie.
Le destin.
Le destin.
Le désastre.
L'idiot.
Les mots
de Masha Makaïev.
Deuxième
mouvement. Image.
Pasolini.
Francis Bacon.
Agnès Varda.
La nage. Accumulation.
Accumulation.
Désenchantement.
Juliette Gréco.
Jacques Tati.
Burlesque.
Humour.
Humour. Accessoire.
Musical.
L'ordinaire.
Les années 20. Travestissement. Les mots
de Masha Makaïev.
Deuxième mouvement.
Masha Makaïev est plasticienne, auteure, metteur en scène. Elle dirige le Théâtre National
de la Criée à Marseille. Travestissement.
Les mots de Masha Makaïev. Masha Makaïev, bonsoir.
Bonsoir.
La dernière fois, lorsque nous sommes vus, j'étais venu avec une petite boîte. Il y avait des mots dedans, pliés, repliés sur eux-mêmes. Il restait quelques mots.
Oui.
Alors, je vous propose de poursuivre ce petit jeu. Je suis revenu avec cette boîte, avec les mots que nous n'avions pas ouverts.
Oui.
À nouveau, je les renverse sur la table. Et je vous laisse en choisir un.
Hop, viens par ici. Petit papier que je déplie. Et c'est maquette. Alors maquette, c'est plein de choses. Maquette, moi, a priori, pour moi, c'est plutôt une cage de scène en réduction au 50e, noir. Et les prémices de ce qui va devenir un décor. Et sans ça, je ne saurais pas imaginer un spectacle, parce qu'il y a évidemment des croquis, mais après, on peut... Ces petits volumes, cette espèce de petite machine comme ça, à inventer l'espace, à le faire, à le défaire. Et immédiatement après, au fond, c'est les premiers tourments aussi. Parce qu'on croit avoir trouvé quelque chose, tout d'un coup, c'est évident, on va raconter l'histoire dans ce décor-là, dans cet espace-là, et puis... Une nuit passe, deux nuits passent, et puis on regarde, et puis ça s'effondre. Ça s'effondre, non pas que l'imagination était décevante, mais c'est parce que d'abord on ne peut pas le fabriquer, parce que c'est trop gros, trop grand, trop cher, parce que ça n'ira pas sur les différents plateaux, parce que le théâtre, c'est toujours, bien sûr, c'est de l'art, mais c'est aussi un bricolage. C'est ce que disait Lévi-Strauss d'ailleurs, tiens. Et voilà.
Là, par exemple, devant nous, nous avons deux maquettes. Et je crois qu'il y a une maquette de la grande salle du théâtre de la Criée. Et à côté, la maquette des Bouffes du Nord.
Oui, voilà. Alors, tous les opposent. Voilà, deux espaces, deux cages de scène qui n'ont strictement rien à voir. Et donc, moi j'aime beaucoup le théâtre des Bouffes du Nord. J'aime bien l'équipe qui s'occupe de ce théâtre, qui le programme. Donc par exemple, quand j'ai fait les Apaches, il fallait que ça soit sur ce plateau de la Criée, que je connaissais pour être venu jouer plusieurs fois, mais je ne connaissais pas vraiment comme lieu de conception. Et puis aussi au Bouffes du Nord. Alors les Apaches, on va bientôt les jouer au Bouffes du Nord. J'ai repoussé ça un petit peu parce qu'on a joué à Bobigny. Mais voilà, quand j'ai fabriqué le décor des Apaches, j'imaginais dans les deux espaces. Et c'est plein de contraintes. Et au bout d'un moment, de ces contraintes, naît quelque chose qui fait que ce décor peut aller absolument n'importe où, sur toutes sortes de théâtres. Donc c'est un excellent exercice. De la même façon... pour Trissotin et les femmes savantes, c'est le prochain spectacle qu'on va créer ici, eh bien, je m'oblige aussi à travailler sur les deux maquettes à la fois et me dire qu'après tout, c'est bien de ne pas se priver d'autres lieux très contraignants.
On continue ?
Mm-hmm. Alors, deuxième mot, c'est le costume. J'aime bien le costume. À Marseille, le costume, ça veut dire le costume dont on parle. Comment en latin, hein ? Le costume. Tu l'as mis, le costume ? Voilà. Le costume dont on a parlé. Ça, j'aime bien, le costume, parce que tôt ou tard, quand on travaille, le comédien, la comédienne vient vous voir, ils m'ont dit, et alors, le costume que je vais mettre ? Et ça, c'est très important, parce que, pour moi, c'est une forme de la direction d'acteur la plus... comment dire, dans la plus grande proximité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien entre... Il n'y a pas de discours entre le comédien ou la comédienne et moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, il se confie son corps à quelque chose. Et c'est plein d'aveux d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire telle étoffe plutôt que telle autre, cette couleur, cette matière, cette chose récupérée, cette chose transformée. Il se dit énormément de choses avec très très peu de mots. Et puis c'est de la direction d'acteur parce que ça induit une façon d'être, une façon de bouger, un bruit, quelque chose qui est mal commode, au contraire, quelque chose qui est très confortable, selon quelque chose qui se transforme, qu'on enlève, qu'on porte sur le bras. Donc déjà toute une partie de l'histoire et de l'histoire du personnage se raconte comme ça. Et puis le costume, c'est aussi un temps de solitude dans l'atelier. C'est aussi des recherches, mais c'est aussi ce temps tranquille dans l'atelier où je les mets tous par terre et je fais comme une palette. Et voilà, il faut beaucoup, beaucoup de temps dans ce travail-là et j'aime beaucoup. Les plus récents que j'ai faits, c'est ceux pour Jean Bellorini, pour La Bonne Âme du Szechuan. Et ça, c'était les costumes pour l'univers de quelqu'un d'autre. Et j'y ai trouvé au moins autant de plaisir.
Le costume peut, à vous entendre, prendre en fait un pouvoir magique, disons, sur le corps. Il peut envoûter ou posséder le corps.
Et puis, comment dire, c'est des indications à l'acteur qui ne l'assomme pas de discours. Parce que nous, les metteurs en scène, on parle toujours trop, je trouve. On fait un peu les intelligents, parce qu'on a beaucoup travaillé avant, parce qu'on a fait beaucoup de lectures, parce qu'on a des idées sur la pièce, qu'ils n'ont pas forcément, voilà. Donc on peut noyer une partie de notre relation extrêmement fragile, candide, qui fait naître des choses, par tout un discours. Et là, tout d'un coup, c'est plus du discours, c'est... T'as vu, ça te va bien, ça te sert pas sous le bras, c'est bien ce rouge... Par exemple, ce que vous portez là ce soir, je trouve ça très, très, très beau. Sur un plateau avec la lumière, ça peut être très beau. L'idée de la zip, tu vas pouvoir jouer avec. Tu as les petites poches, tiens, tu vois, t'as pas de poche, on va en faire. Et tout ça, ça commence à raconter les attitudes, la façon d'être de ce personnage par rapport à comment il va se tenir dans le décor, et aussi dans sa tête, au fond, d'une certaine façon, son psychisme, comme ça.
Le costume a beaucoup plus d'effet que les mots.
Je préfère, au moins dans un premier temps, passer par là, c'est plus... il se dit beaucoup, beaucoup de choses, mais bon sang, ça passe pas forcément que par de l'intelligence verbale. Il y a une autre forme de l'intelligence de l'un vis-à-vis de l'autre, et c'est vraiment un dialogue. C'est un dialogue. L'acteur vous dit autant de choses que vous lui dites quand vous lui dites « Tiens, tu veux enfiler ça, tu veux essayer ?» Et puis c'est un travail de confiance réciproque, c'est aussi le moment où il voit que vous pataugez un peu, parce que vous avez pensé à quelque chose, puis ça marche pas, puis on essaie autre chose. Et donc on voit le travail en progression de l'un et de l'autre, et ensemble, voilà, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. On est vraiment ensemble, on est sur le même parquet. Il n'y a pas, parce que très vite, au théâtre, il faut prendre du recul, donc on quitte le plateau, on vient, puis à bout d'un moment, on est vraiment dans la salle, parce qu'il y a les lumières, parce qu'il y a le son, et on quitte les acteurs. Et quand on est dans l'atelier, on est vraiment avec eux.
On continue ?
Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? Les années 20. Alors ça, les années 20, oui, ça c'est... Ça me va droit au cœur parce que c'est l'évocation des fantômes. C'est-à-dire que j'ai vraiment comme... on a le droit d'être... comment dire... de ne pas être tout à fait raisonnable, mais moi j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu ces années-là, dans une autre vie. Donc quand je suis face... Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance d'aller voir les costumes des ballets russes, parce qu'on m'a demandé de faire un travail là-dessus. Donc j'étais vraiment en contact avec ce qu'avait porté Nijinsky, ce qui avait été fait à partir des dessins de Bax, etc. Donc je touchais ça et je me disais, mais bon sang, mais oui, mais je les connais. Donc j'aime beaucoup cette époque d'abord parce que après 14-18, il y a une espèce de folie créatrice et créative partout, dans tous les arts. Il y a une fantaisie qui est à l'œuvre. Les musiciens sont partout, dans les cafés, dans la rue, voilà. Il y a quelque chose, une proximité des artistes, de music hall. Il y a aussi une force du music hall qui se met à inventer le cinéma et qui le nourrit. Ce bouillonnement me plaît beaucoup. Il y a une fragilité des artistes qui me plaît beaucoup. Et puis aussi, peut-être que j'aime cette période parce que c'est avant la Shoah. Il n'y a pas eu dans ce XXe siècle... Évidemment, il y a eu 14-18 qui était un immense traumatisme qui a donné le dadaïsme, surréalisme, ça. Mais il n'y a pas encore cette chose, moi, qui me laisse sans mots, qui est 39-45 et qui est l'industrialisation de la mort. Et donc moi, je me sens bien avec ceux qui étaient là avant et qui n'ont pas su, qui n'ont pas fait ça.
Et puis il y a aussi quelque chose d'une enfance de l'art.
Oui, et en même temps, c'est vrai que c'est une enfance de l'art, et en même temps, quand on regarde la peinture de l'époque, le début du cinéma, mais c'est d'une science incroyable. Enfin, je veux dire, ils ont profité de tout ce qui arrive du 19e, et ils inventent le 20e, mais avec tant de force. Enfin, je veux dire, je sais pas, à la fois ils peignent comme Ingres, et puis. Il déstructure tout à la fois. Enfin, c'est... Non, moi j'aime beaucoup aussi ce qui se passe dans la Russie de la Niep, où il y a vraiment toutes les utopies artistiques. Enfin, oui, moi je suis bien avec eux.
Vous parlez des ballets russes, mais au niveau du cinéma, Eisenstein, c'est...
Incroyable. C'est les gens qui inventent tout. Sans Eisenstein, on n'aurait pas Tarkovsky. Enfin, je veux dire, sans les ballets russes, on n'aurait pas toute la musique... Toute une partie de la musique française du XXe siècle, c'est des gens qui ont tout inventé. Ils inventent aussi cette espèce de proximité entre les peintres, les dessinateurs, le danseur, l'acteur, le musicien. Enfin, c'est fou quand même. Et en même temps, toujours dans une dimension de troupe. Hein, c'est pas quelque chose. Et en même temps, c'est des histoires d'exilés. C'est pas mal. Enfin, Stravinsky fait des allers-retours, mais il sait plus où il en est. Il sait plus s'il est bien là, ce côté de l'autre. Enfin, quelque chose me touche beaucoup dans cette itinérance, cette recherche de savoir où c'est chez moi, qu'est-ce que je transporte de la Russie en France. Quand je suis en France, je pense aux États-Unis. Qu'est-ce que... Voilà. Et au fond, ils ouvrent la voie. Ils nous ouvrent la voie. D'un regard sur le monde très très la fois très large et un art de très grande proximité entre artistes.
On continue ?
Oui. Alors, Jacques Tati. Ah ben ouais. Ça, c'est Jacques Tati. Alors là, comment dire ? Ben voilà, on parlait de ces artistes qui ont tout appris au musical et qui inventent le cinéma. Voilà celui-là qui a vécu ça et qui n'a pas cessé d'inventer, qui n'a pas cessé d'un film à l'autre, d'inventer des formes, de ne jamais s'arrêter là où il en était, de toujours aller plus loin. Il aurait pu être François le facteur toute sa vie, non, il fait jour de fête, il invente autre chose. Après, il aurait pu être Monsieur Hulot, celui des vacances de Monsieur Hulot. Non, il réinvente, il vient dans la couleur, dans la modernité. Puis le Hulot de mon oncle, bien sûr qu'il pourrait aussi, il aurait pu faire quatre histoires autour de ce personnage-là. Pas du tout. Il invente un autre univers qui est une espèce de Tativille gigantesque pour parler du monde tel qu'il se transforme. Voilà, et sans arrêt aussi, il s'intéresse à toutes les technologies qui s'inventent. Il change tout le temps de caméra. Il travaille avec le 70 mm, avec le 5 pistes pour le son. Voilà, c'est un inventeur. C'est un artiste inventeur. Est-ce que c'est pas ce qu'il y a de plus beau ? Et en même temps, bon, c'est un Russe mélancolique, un peu perdu, mauvais fils. Voilà, qui a commencé avec trois fois rien et qui finit avec moins que rien.
Inventeur et sans pour autant se lancer aveuglement dans les inventions, puisque le rapport qu'il a avec le cinéma parlant est, je trouve, très juste de ne pas aller si facilement au parlant, justement.
Mais c'est formidable, ça, en fait. C'est un pied de nez aussi, effectivement, à la technique et à ceux qui s'y engouffrent, c'est-à-dire que continuer à dire que tout ne passe pas forcément par le dialogue, mais par le son. Et ça, c'est magnifique. Magnifique le son qui toujours, moi, me hante quand on commence une répétition. Au fond, on peut raconter déjà l'histoire sans mots. Et après, les mots, c'est une musique parmi une autre. Voilà. Et ça, c'est c'est une de ses leçons, mais plus le temps passe et plus je vois son œuvre, je la défends et plus j'apprends de choses. C'est le propre des grands maîtres.
Un autre mot ?
Alors, désenchantement. Alors, immédiatement, il y a des enchantements, réenchantements. Au théâtre, c'est sans arrêt de l'un à l'autre. Je crois qu'on commence à avoir une idée de spectacle, à vouloir monter quelque chose parce qu'on est envahi. On risque d'être envahi par le désenchantement et qu'on sent bien que c'est là partout en ce moment avec ce qu'on entend des résultats pour les élections, cette espèce de moisissure de l'extrême droite qui recommence, qui vient, qui envahit. Voilà, on pourrait être totalement dans, voilà, on pourrait sentir le désenchantement parce que c'est une réalité. Mais nos métiers, notre mission, c'est le contraire. Voilà, c'est d'enchanter malgré tout, même si c'est c'est comment dire, maintenir la digue, mais pour une heure et demie, deux heures. Mais moi, je pense que c'est la beauté de ce que l'on fait, c'est-à-dire on invente une fiction pour réenchanter au moins pendant une heure et demie, deux heures, voire un peu plus, puisque le public, quand il quitte le théâtre, va continuer sa rêverie. Mais voilà, c'est sans arrêt battre, éloigner le désenchantement parce que c'est une réalité, parce que voilà, le monde est... C'est comme le début du Maître et Marguerite. De temps en temps, le diable arrive et s'assoit sur le banc public. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout déraille.
Plus le désenchantement est fort, plus le réenchantement est nécessaire.
Oui, le réenchantement est nécessaire et le rire, de mon point de vue, est nécessaire. Voilà, parce que très souvent, même dans les milieux du théâtre, on pense que le rire, c'est une chose, mon Dieu, un peu facile, peut-être même un peu commerciale. Et puis, chaque fois, on dit des horreurs parce que d'abord, c'est pas facile de faire rire. Mais je pense qu'il y a dans le rire quelque chose d'une véritable insolence quand il est un rire d'empathie, un rire qui va chercher des racines tout à fait humaines.
Et en fait, c'est une insolence à ce désenchantement.
Oui, absolument. Je crois que c'est, c'est la plus grande claque qu'on peut lui donner.
Un autre mot ?
Alors, cette fois-ci... Celui-là, il est long. Juliette Gréco, magnifique. Oh, c'est bien qu'elle soit convoquée, Juliette. Alors, Juliette Gréco, c'est une artiste voilà, que j'admire. Et c'est une femme que j'aime profondément parce que c'est une médium, en fait. C'est quelqu'un qui d'abord qui vous parle, qui vous regarde d'abord, qui vous parle ensuite. Et puis entre deux phrases, elle dit encore autre chose. Et puis après, comme artiste sur le plateau, c'est une femme une artiste d'une exigence et une femme exceptionnellement belle et exigeante. Et j'admire cette espèce de minimalisme, simplement deux mains, un visage, un micro, et tout est dit. Et je suis toujours impressionnée parce que dès que je peux aller l'entendre, j'y vais. On a l'impression, quand elle se développe, comme tous les grands artistes sur scène, on a l'impression qu'elle mesure 1m80, qu'elle a des bras d'une envergure immense, comme un grand oiseau, comme ça. Et puis après, je vais l'embrasser dans sa loge et on dirait une petite japonaise extrêmement fragile qu'on peut prendre dans ses bras. Voilà. Et vous voyez, cette différence d'échelle, c'est le propre des très grands artistes.
Est-ce qu'elle fait partie de vos fantômes de la nuit ?
Oui, elle fait partie de mes fantômes de tout le temps. Et même, en parlant de désenchantement, même de période de ma vie, j'ai eu une période de ma vie extrêmement difficile où, qui avait à voir entre la vie et la mort. Et Juliette Gréco a été une des personnes qui m'ont donné de la force au moment où il fallait. Donc vous imaginez ma reconnaissance au-delà de tout.
Un autre mot ? Peut-être un nom ?
Alors, rêverie. Voilà, ça c'est, j'allais dire, il y a des gens qui font du sport, il y a des gens qui font de la course, il y a des gens... Moi c'est vraiment, mon hygiène, vraiment, c'est ma pratique, c'est ma respiration. Et c'est pour ça que je peste souvent quand j'ai pas ce temps-là. C'est comme une nécessaire méditation. Mais ça, c'est pas une chose qu'on choisit complètement, mais il faut être assez disponible. Et c'est une chose dont on ne peut jamais vous priver. C'est-à-dire que ça a à voir à la fois avec une disponibilité et le hasard. C'est-à-dire que ça vous prend des moments incroyables. Ça peut me prendre même quelquefois lors d'une répétition. C'est assez embêtant. Maintenant, je sais ne pas le montrer, mais ça peut me prendre dans une conversation, ça peut me prendre en marchant, dans des lieux aussi où il faut... où normalement, elle ne devrait pas être convoquée, cette rêverie.
C'est une manière de s'absenter au monde ?
Bon, c'est plus que ça. C'est une façon d'être présente au monde, mais un autre monde, c'est-à-dire à... C'est très important, parce que dans mon enfance, c'est ce qui me sauvait tout le temps. Donc, maintenant, c'est vrai que le temps de la rêverie, il faut faire très attention, parce qu'il y a une rapidité de la vie d'aujourd'hui, il y a aussi des... de multiples responsabilités qui font que ça risquerait comme une peau de chagrin, comme ça, de se rétrécir. Mais non, faut laisser venir, et puis ça vient. Il y a des gens qui prient, par exemple. Bon, moi, je suis du côté de la rêverie.
Et au théâtre, il semble que ce que vous cherchez aussi à donner aux spectateurs, c'est des moments de rêverie.
Oui, et ça, on a parlé de Jacques Tati, mais je crois aussi chez les artistes que j'aime et que j'admire, je pense que c'est marrant, je pense souvent au cinéma de ce point de vue-là, comme en peinture, ce sont des artistes qui vous demandent de faire un certain chemin. Ils vous apportent pas tout comme à des consommateurs, ils ne vous donnent pas toutes les clés, il y a plus d'énigmes que de réponses dans ces œuvres-là. Et moi, cette démarche artistique-là, je voudrais être au plus près d'elle. C'est-à-dire ne pas tout dire, ne pas tout montrer. C'est pour ça que j'aime beaucoup au théâtre l'esthétique du fragment. C'est-à-dire dire très peu et le spectateur peut rêver avant, peut rêver après. Il a une intelligence, une disponibilité, surtout au théâtre. Le public est curieux, il vient avec une vraie disponibilité. Donc... même si au début il est un peu étonné, il est un peu déstabilisé parce que tout n'est pas dit, eh bien s'il fait un tout petit peu le chemin, après quelque chose se dit, me semble-t-il, le plus fort, parce que il y a une résonance personnelle chez chacun.
Un autre mot ?
L'idiot. Alors, ça, c'est un sujet qui... je pourrais parler des heures, donc je vais éviter. L'idiot, c'est... ça rejoint absolument ce qu'on vient de dire. C'est... comment dire ? C'est ce qu'il y a de primordial. Quand on commence à jouer, quand on commence à travailler, quand on commence une répétition, être idiot. C'est-à-dire revenir au fond à un état premier qui est proche de celui de l'enfance, de celui qui, de l'enfant à qui vous dites tiens, on fait le chien et qui fait le chien, tiens, on fait le cheval et il fait le cheval. Il ne se pose pas d'autres questions. Et puis, c'est un hommage à tous les héros que j'aime, qui sont soi-disant des idiots, c'est-à-dire des gens à côté de la plaque, des gens qui n'ont pas forcément la compréhension du monde à ce moment-là, mais qui ont autre chose, qui ont un état de grâce, parce que cette idiotie, avec un I majuscule, vous donne, c'est un état de grâce aussi, si on sait l'attraper. Et puis bon, un de mes héros depuis l'adolescence, c'est le prince Mishkin, évidemment, chez Dostoïevski. Donc c'est... voilà, c'est, celui-là, c'est définitivement mon frère, mais je crois que c'est aussi une... L'idiot, c'est aussi une pratique artistique. C'est-à-dire, avant de commencer, savoir être à la fois dans cette modestie, cette immodestie. C'est-à-dire de ressentir le monde plutôt que de le comprendre. Et c'est souvent ce que je demande aux acteurs.
Et l'idiot, c'est aussi le singulier, en définitive, car idiot veut dire aussi singulier.
Et oui, parce que c'est un, comme je vous dis, c'est un état de grâce, c'est-à-dire c'est être tellement singulier qu'on en est seul à un moment donné. Mais ce qui est beau aussi, c'est que dans le discours humain, on est toujours à un moment donné l'idiot de l'autre. Il y a toujours un moment dans une journée, dans une semaine, et n'en parlons pas, dans une vie, plusieurs fois. Voilà, on est l'idiot de la situation, l'idiot de sa propre vie. Quelque chose qu'on ne comprend plus comme ça. On ressent, mais on ne comprend plus. Donc pour moi, il y a quelque chose d'aristocratique là-dedans.
Un avant-dernier mot, je crois.
Les objets. Bon, les objets, c'est une quête obsessionnelle et c'est presque... comment dire ? C'est plus que névrotique, c'est... C'est presque une mystique pour moi. C'est complètement... Et encore, je me calme un peu, hein, parce que là, ben, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire à côté de ça. Mais quand j'étais à Paris dans mon atelier, c'était comme une frénésie, en fait. Ouais, ouais. C'était comme une collecte, d'abord. C'est-à-dire partir, chercher, trouver, savoir qu'on est attendu. Enfin, c'est quelque chose qui a à voir avec la réparation de quelque chose qui vient de très loin, je sais, voilà. Réparer le monde un peu, oui. Ramasser ce qui est abandonné, réparer le monde, mettre de l'ordre. Enfin, puis je me dis quelquefois, la mise en scène, c'est mettre de l'ordre. C'est mettre un ordre poétique dans le chaos, dans un petit chaos comme ça. Voilà. Mais mettre un ordre poétique qui n'est pas forcément l'ordre que l'on attendrait.
Parce que par exemple, ici à la fabrique, hein, nous sommes entourés d'objets, mais ils ont un âge.
Oui, ou alors ils sont... De toute façon, ils ont toujours un peu d'âge, parce que même s'ils datent d'avant-hier, ce que ça raconte, c'est qu'ils ne sont pas entrés dans le circuit. Ils sont encore sous cellophane, et voilà, ils n'ont pas été élus, quoi. Ils sont un peu ratés, quelque chose qui font qu'ils sont sur le côté. Je crois que les objets m'entourent beaucoup et je continue ce dialogue parce que quand j'étais très jeune, j'étais très, très intimidée, presque mutique par rapport aux acteurs. J'avais beaucoup de mal. Et j'étais attirée par le théâtre, je voulais faire du théâtre, mais j'avais beaucoup de mal. Voilà, le dialogue avec les objets a été plus facile. Et après, par les objets, ça remplaçait aussi le discours. Parce que quand vous tendez un sac à un comédien ou à une comédienne qui s'en empare, là aussi, c'est déjà lui raconter le personnage. Voilà.
On rejoint le costume.
Oui, on rejoint le costume, on rejoint le corps, la façon dont il va le porter, se le mettre, s'accrocher au bras, elle va l'ouvrir, le fermer, ne pas le regarder, le poser, l'accrocher au bord de la chaise, pas savoir qu'en faire. Et tout ça, c'est plein d'aveux. Et voilà, c'est des partenaires de théâtre formidables, les objets. Et pour moi, ça a été à un moment donné une façon aussi d'entrer au théâtre comme ça, très un peu discrètement, sans.
Et ces objets, hein, ce sont des objets abandonnés d'une certaine manière.
Ces objets pas élus, ces objets qui, oui, ils sont pas très reluisants. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de les mettre à la lumière du théâtre et à les mettre en lumière aussi. Et de les célébrer d'une certaine façon. Parce que le théâtre est toujours une célébration. Donc, quand vous prenez des pauvres choses et que vous les mettez sur le plateau, comme c'est un espace assez sacré, c'est immédiatement une célébration.
Un dernier mot.
Qu'est-ce que j'aime, l'idée de travestissement. Alors, oui, voilà. Ça, j'allais dire, c'est vraiment... une des joies données au théâtre. C'est-à-dire, après tout, changer de genre, changer d'identité. Alors, quelquefois, c'est changer d'identité sexuelle, mais pas forcément. De toute façon, déjà, tout est travestissement. Déjà, vous jouez quelqu'un d'autre. Puis après, il y a toutes les joies du vrai travestissement et du vrai travesti. C'est-à-dire l'homme en femme, la femme en homme. Jouer de ce que on ne connaît pas et de ce qu'on ne sera et ne saura jamais complètement de l'autre. C'est extrêmement amusant, et c'est amusant avec des choses quand même assez graves, mine de rien.
J'imagine que ce travestissement, on le retrouve aussi, je crois, très fortement dans les années 20.
Oui, bien sûr. Bien sûr, d'abord, je crois que c'était, j'allais dire, une comptabilité démographique. C'est-à-dire les hommes étaient ou morts ou cabossés ou traumatisés ou pas là, ou s'ils étaient là, ils étaient un peu perdus. Donc les femmes ont réinventé une façon d'être des femmes et des hommes-femmes et des femmes-hommes. Et du coup, il y a aussi eu des surenchères de féminité, parce que je pense que ces hommes qui étaient une espèce de chair à canon abominable, ces enfants qu'on envoyait au front, ils reviennent et ils ont peut-être besoin d'aller du côté de la féminité. Et comme je les comprends et comme je les accueille, ceux-là.
Macha Makaïev, ce que je vous propose, puisque nous n'aurons pas le temps de discuter sur ces mots qui restent, c'est qu'on les déplie ensemble et que juste on sache à quel mot vous avez échappé.
J'ai échappé au cirque. J'ai échappé à la représentation. Minimalisme, ça c'est une règle absolue.
Il y avait la mélancolie.
Ah oui, ça c'est la maladie absolue qu'il faut combattre tous les matins.
Il y avait le mot accessoire.
Accessoire, oui. C'est très curieux, ces objets de théâtre qui sont essentiels et qu'on appelle accessoires.
Il y avait les images.
Les images, ici on est là avec Guillaume notamment. Je suis tellement heureuse qu'il soit dans la maison, Guillaume, qui m'envoie des images, j'allais dire presque chaque heure. Antoine Vitesse, rencontre essentielle, importante, un des premiers, parmi les premiers regards qui vous font vivre.
Le burlesque.
Le burlesque, ça c'est vraiment une écriture, c'est vraiment quelque chose qui m'importe. Parce que ça veut dire un certain rythme, ça veut dire des règles très précises de la façon d'être sur un plateau, ça veut dire un travail de distance, de durée, une rythmique au fond, comme en musique.
Il y avait Camus.
Oui, voilà. Lui, il est là, il m'a aidé à comprendre et à revenir à Marseille, oui. À comprendre la Méditerranée.
Francis Bacon.
Ah, oh là là, là c'est très important ça. Ça c'est très important, Francis Bacon, c'est... Voilà, quelqu'un qui me hante et en plus qui est désormais entre le plus jeune de mes fils et moi comme un lien permanent. Quelque chose a lieu comme ça avec certains de nos enfants et avec nos enfants d'une façon différente. D'une transmission comme inconsciente, comme ça, implicite, sans les mots non plus. Et tout d'un coup, vous voyez cet enfant qui arrive à 11, 12, 15, 16 ans et qui vous tend quelque chose qui vous habite complètement et comme par pudeur, vous, peut-être vous n'avez jamais parlé. Et cette espèce de retour, j'allais dire sur investissement, c'est drôle. Oui, sur investissement de l'amour, c'est voilà quelque chose qui va contre le désenchantement.
Nous avons parlé des Russes, vous avez parlé de Dostoïevski, il y a Nabokov.
Nabokov, oui, voilà, quelqu'un magnifique, une langue sublime, et en russe, et en français, et en anglais, un esprit totalement libre, et voilà, quelqu'un comme les gens des ballets russes, qui passent d'un pays à un autre, et encore à un autre, et qui conserve des trois pays ce qu'il y a de plus beau, et qui fait trois fois de la musique. Enfin, c'est magnifique. Grand.
Je vous laisse découvrir celui-ci.
Pasolini. Ben à Marseille, je crois que c'est bien le moins. Peut-être que je suis revenue à Marseille à cause de lui, en fait. À cause de Naples, à cause de Pasolini, à cause du Frioulan, à cause de la voyouserie des artistes et de l'aristocratie de certains artistes. Voilà, oui, c'est...
Il y a un très bel idiot dans le cinéma de Pasolini.
Oui, c'est vrai. Il y en a plusieurs, d'ailleurs. Dans chaque film, il y en a un. Est-ce qu'Hakaton n'est pas un idiot, déjà ?
Quelqu'un qui, je pense, vous est cher, sans doute.
Agnès Varda, oui, bien sûr. Voilà. Agnès, je lui ai parlé encore la semaine dernière. On a eu plusieurs rendez-vous manqués, parce qu'elle était très, très occupée, mais je sais où est sa maison. Et... C'est quelqu'un qui est venu dans mon atelier à Paris un jour et qui m'a fait un des plus beaux cadeaux, qui m'a indiqué une façon de regarder les êtres.
Et Agnès Varda pratique beaucoup, je crois, le glanage.
Oui, oui, là-dessus, voilà quelqu'un qui sait de quoi on parle. Mais c'est vraiment une grande femme de l'image presque immobile d'ailleurs.
Il y avait ce mot, le désastre, qui est partie d'un des titres de vos livres.
Oui, s'il y en avait un à garder, ce serait celui-là, parce que c'est... On parle de l'intuition, c'est ce qui pousse à... C'est ce qui me pousse à travailler tout le temps, c'est ce sentiment du désastre qui a eu lieu, de celui qui va venir. Et en même temps, dans désastre, il y a aussi la fin du mot astre, qui veut dire que... Voilà, quelque chose qui brille comme ce qu'on fait au théâtre le soir.
Et puis, regardez sur quel mot nous terminons.
Ah, l'humour. Oui, bah ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est aussi un secret, en fait. J'allais dire, c'est la moindre des choses dans la relation humaine. C'est une des formes de l'écoute et de la politesse.
Les mots de Masha Makayev. Merci beaucoup, Masha Makayev.
Merci beaucoup à vous. J'aime bien jouer.
Les mots de Masha Makayev.
Les âmes offensées.
Du 18 janvier au 29 mars.
Une rencontre entre l'ethnologie et le théâtre.
Un projet sur les ondes de la grenouille.
Sur le web
et au théâtre de la criée.
Plus d'infos, www.lesamesoffensées.fr.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.